Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 182. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mon collègue
Rémi Fréchette. Et you Pascal, là, qu'est-ce qui se passe?
Ben oui, Pascal Plante qui poursuit son World Tour 2018, faux tatouage tour.
J'espère que vous avez vos t-shirts là, avec toutes les dates de show en arrière, là,
ouais.
La grosse face de Pascal en avant.
Hey, je suis sûr que ce serait un petit beau cadeau à y faire, pareil. Faudrait que, ouais, je pense que je vais essayer de concocter de quoi. C'est tellement une bonne idée, Rémi.
Faudrait couper ça de l'épisode parce que ça... Il va l'entendre sinon.
Off, personne ne nous écoute de toute façon, nos statistiques
non, c'est
là,
ça.
L'été, là, surtout. Là. Rémi Fréchette, donc...
ça, c'est positif, ça sent pas positif un épisode de podcast.
On est toujours positif. Rémi Fréchette, on est positif, sais-tu pourquoi? Parce que dans quelques jours à peine, c'est le lancement du Festival de cinéma de la ville de Québec, du 13 au 22 septembre, à Québec, bien sûr. Toutes les infos au fcbq.ca. Et tu y présentes notamment, encore une fois, un court et un long.
C'est
après
une bonne année quand même.
Ouais.
Je suis quand même très content.
Mm-hmm.
J'ai mon court-métrage A Night of Sweats, qui est mon dernier cabaret kino qui a comme bien été. Là. C'est un film de danse aérobie années 80, doublé en français international.
Encore un autre film de même.
Mais qui est présenté avant Flashdance sur la place d'Youville.
C'est malade.
C'est un rêve, là. Pour vrai, le film est inspiré directement de Flashdance, de Footloose, puis en plus, c'est Flashdance doublé en français, donc c'est juste un match parfait. C'est sûr que j'aurais pas de meilleure projection que ça. C'est parfait, parfait. Donc, je vais le 14 pour ça, et le 21, je vais présenter Montréal d'Éden, la projection de Québec. Donc, ça continue, là, une quatrième projection du long-métrage. C'est vraiment cool, là, un projet indie qui, finalement, il y a une belle vie, là, ça se promène un peu.
Ben, c'est super cool. Donc, moi par contre, cette année, je ne serai pas au Festival de cinéma de la Ville de Québec. Malheureusement, je suis trop occupé. Mais je compte sur toi, Rémi, pour voir des films et nous faire un peu un feedback au prochain épisode.
Ouais, je pourrais pas rester non plus très longtemps, mais c'est certain que je vais essayer d'accrocher quelques films les dates que je vais être là.
Parce que pour ceux qui ont jamais été au Festival de cinéma de la Ville de Québec, c'est vraiment, je pense, un des plus beaux festivals en ce moment de cinéma de la province et même du pays. Et ça vaut vraiment le 2h30 de voiture là, ou de covoiturage ou de billets de bus que vous pouvez trouver pour y aller quelques journées, une fin de semaine, quelque chose comme ça. C'est vraiment nice comme ambiance.
Il n'y a comme pas l'abondance de festivals de Montréal à Québec, donc tout se concentre là-dedans, puis c'est, mm-hmm. Ouais, c'est magnifique, là, autant les projections, la programmation, parce qu'il y a vraiment des très bons films, il y a des classiques aussi qui sont passés, ben, par exemple Flashdance qui mm-hmm. va passer, mais aussi juste le côté humain, là, les soirées là-bas sont vraiment super, là, tout le monde était là. Fait que, ouais, moi aussi, je recommande chaudement d'aller faire un tour, aller faire un petit aller-retour à Québec pour attraper quelques films, là. C'est une belle expérience.
Sinon, qui dit donc début septembre, dit donc la clôture du FFM? Est-ce que tu y étais, Rémi Fréchette?
Moi, j'étais au Mexique pendant ce temps-là. Hey, j'ai fait la blague, en plus, j'étais à Kino il y a deux jours, puis j'ai juste sur scène fait comme... « Hey, tout le monde, vous avez passé un bon FFM! » Puis il n'y a juste personne qui a ri ou réagi dans la salle. C'était comme silence total.
Ouais,
j'étais vraiment fier de moi.
C'est un peu triste. Puis tu sais, je veux dire, le festival, ça aide pas. Là. Tu me faisais réaliser que sur leur page Facebook, ils ont mis comme les photos des gagnants, tu sais, comme n'importe quel festival qui se respecte. Puis tu sais, les photos sont en qualité, là, genre 2002, là, tu sais.
C'est... Ouais, je pense que ça a été pris avec des flip phones avec 3 mégapixels, ça fait aucun sens, là.
Puis,
c'est tout flou, là,
ouais,
tu sais pas trop c'est qui. Tu sais, il y a aucune stratégie, là, ok, c'est vraiment... on va faire ça, tout le monde fait ça, là, fait qu'on va le faire nous autres aussi, là.
Ça fait vraiment... Puis tu sais, je me sens mal pour les équipes de films, tu sais, parce que, bon, le film qui a gagné le Grand Prix des Amériques, ça, c'est Curtis, et c'est sur le réalisateur Michael Curtis, juste pendant qu'il entame le tournage de Casablanca. Donc, a priori, le sujet, je trouve, ah, tu sais, c'est intéressant. Puis, je veux dire, c'est pas parce qu'il joue au FFM que nécessairement c'est mauvais. Tu sais, il y a des très bons films qui passent par FFM. Mais je me dis, je me sens mal pour l'équipe du film. T'imagines, genre, tu vois, c'est ça le résultat. Puis, sur la page, il n'y a pas beaucoup d'interactions, là. Tu sais, peut-être quoi, 25 likes, là, sur, tu sais, sur le Grand Prix des Amériques, là. On est loin des chiffres de n'importe quel autre festival qui existe.
Ouais, pis c'est un drôle de statut parce que, tu sais, tu y vas en voyant que comme le festival dure depuis tellement longtemps, puis tu vois les invités qu'il y a eu dans le passé, puis tu le sais pas, puis t'es comme tout stimulé à juste participer à ce festival-là, puis finalement, c'est ça la conclusion parce que le festival a été en déclin depuis des années. C'est pas glorieux, là. C'est pas glorieux. Parce que tu pourrais aller dans un petit festival, mais t'as la conscience que c'est un petit festival,
C'est
pis c'est pas
ça,
grave. Le résultat, c'est pas grave. Tu vas voir du monde, tu... Mais, frère, c'est... Ouais, c'est vraiment triste pour les invités, effectivement.
ouais. Voilà, alors on épiloguera pas là-dessus. Sinon, en ce
Non,
moment, il y a
on en
également.
parle... Je pense qu'on est le média qui couvre le plus le FFM, même si c'est négatif, là.
Ouais, malheureusement. Sinon, en ce moment également, c'est le TIFF à Toronto. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans le crunch des festivals de films en ce moment, évidemment. C'est l'automne, là, il fait plus frais également. La température a enfin diminué sous les 30 degrés pour la première fois depuis longtemps à Montréal.
Ouais.
On voit vraiment ça, les pions qui commencent à se placer pour les différents studios pour avoir un peu leur cheval de bataille vers évidemment les Oscars. Donc, il y a le TIFF en ce moment, il y a notamment le film A Star is Born, le énième remake de ce film, cette fois-ci réalisé par Bradley Cooper, dans lequel il joue également l'un des rôles principaux, avec à ses côtés Lady Gaga. Et c'est un des films vraiment qui a le plus en ce moment de prestige et de bonnes critiques et d'ovations. Donc, ça, c'est comme un des gros films en ce moment qu'on retient les échos de TIFF. Alors.
Hier soir aussi, il y avait Halloween qui était projeté, puis ça, j'ai un peu out, là. J'ai un peu out.
Avec le retour de Jamie Lee Curtis.
Ouais. Qui est morte, genre, 3 fois dans la franchise, là. Je sais pas, là, ça a comme pas arrêté.
Ah, mais ça, c'est comme les Marvel. T'sais, si quelqu'un meurt, tu le sais que dans l'épisode suivant,
Ouais.
c'est réussi
à... Ben, j'ai pas vu le dernier Avengers, mais il paraît. Il paraît. C'est tout ce que j'ai à
Ouais.
dire.
On spoilera pas personne. Sinon, au TIFF également, il y a le film Beautiful Boy avec Timothée Chalamet, bien sûr, de Call Me By Your Name, qui a des très bons échos présentement. Donc, on a bien hâte de voir tout ça et de voir comment, à l'heure où on enregistre, donc, c'est ça, le festival est en cours et on n'a pas encore le résultat des gagnants. Et le TIFF, c'est toujours à chaque année une espèce de plateforme de lancement. Parce que eux, ils n'ont pas nécessairement comme un jury comme les autres festivals, mais c'est comme le prix du public qui fait office en fait de mesure pour voir quel film pourrait cheminer vers les Oscars. Et c'est quelque chose que TIFF est vraiment fier en fait à chaque année. Là, il y a la statistique, je sais pas c'est combien, mais à peu près un film sur deux qui gagne le prix du public à TIFF finit par être en nomination comme Best Picture. Donc, c'est toujours un indicatif assez fort. Sinon, Rémi, il y a quelques jours à peine, à Venise,
Oui.
qu'est-ce qui s'est passé à Venise?
Il y a eu le Grand Prix pour Cuaron.
C'est ça, le Lion d'or, en
C'était
fait.
ça la réponse?
Ouais, le Lion.
J'ai-tu gagné quelque chose?
Ben, t'as gagné un bras de robot. Et c'est ça, c'est Cuaron, donc, pour son film Roma, produit par Netflix, qui avait été boudé par Cannes, on s'en rappelle. Qui remporte le Lion d'or de Venise donc des mains de Guillermo del Toro, qui était le président de ce jury. Évidemment, il y aura pas, t'sais, on fera pas de procès d'intention puis dire qu'il y a peut-être là du copinage, mais malgré tout, très excitant de voir Cuaron remporter un grand prix comme ça. Et surtout, j'ai hâte de voir quelle sera la stratégie de ce film-là au Québec, parce qu'on sait que Netflix, là, ils veulent avoir une vraie sortie en salle pour ce film-là aux États-Unis dans quelques salles, ne serait-ce que pour le qualifier pour les Oscars. Donc ça, c'est prévu. Et là, avec ce prix, justement, ça lui donne encore plus de visibilité à ce film. Et il y a comme des rumeurs qui veulent que Netflix serait peut-être tenté de faire leur première vraie grande distribution en salle. Alors, à voir si ça prenait Cuaron un peu pour changer les cartes de ce géant de l'industrie. Et
Ben sûrement que
peut-être.
le Scorsese aussi dans le futur il va avoir le même plan. Je peux pas croire qu'il investisse 100 millions puis qu'il ait pas l'intention de le qualifier pour les Oscars. C'est clair qu'ils vont trouver le moyen.
Mais faut quand même que le film soit prêt, parce que dans le cas du film de Scorsese, il y a eu dépassement de budget, beaucoup de reshoot, et puis je serais pas surpris, on est quand même déjà rendu en septembre, puis on n'en sait pas beaucoup plus sur The Irishman. On a vu des photos de plateau, mais il n'y a pas eu de bande-annonce, ça n'a pas l'air d'être prêt vraiment pour cette saison des Oscars. Donc, est-ce que Netflix va pas décider de juste le mettre sur Netflix à un moment donné, comme au printemps peut-être, je sais pas, parce que ça me semble... tu sais, c'est comme un mauvais timing, on dirait.
Ouais.
Quoique, il y a quelques années, The Wolf of Wall Street, il avait été prêt in extremis, comme il était sorti à Noël, après des rumeurs qu'il n'était pas prêt pour l'année. Puis, il a quand même eu un très bon succès.
On n'a pas été déçus.
Ouais, c'est ça. Donc, on lui souhaite peut-être la même chose cette année avec The Irishman. Et autre chose que je vais parler, en dehors des festivals, une annonce vraiment excitante, en fait, je trouve, Rémi. Parce que tu sais qu'il y a MoviePass aux États-Unis qui, bon, en ce moment, ça va pas très bien. Mais tu connais un peu le principe de, c'est un abonnement mensuel et puis tu as une carte qui est valide à peu près à tous les cinémas.
Ouais.
Mais il y a des restrictions de, par exemple, tu peux pas voir un film plus qu'une fois, le même film, c'est-à-dire tu peux pas prendre un billet pour toi puis ton ami. Tu peux pas non plus, mettons, voir plus qu'un film par jour. Bon, il y a plusieurs restrictions. Mais MoviePass, en fait, c'était quand même seulement 10$ par mois depuis comme un an. Et ils ont acquéri rapidement comme une base d'utilisateurs de quelques millions. Mais là, MoviePass, c'est qu'ils perdent de l'argent depuis vraiment longtemps.
Puis leur... Ah ouais?
Ouais, puis leur but, en fait, c'était de... Ils essayaient vraiment de se dire, on va perdre de l'argent autant de temps qu'il faut jusqu'à ce qu'on acquiert une masse critique d'utilisateurs nous permettant de peut-être augmenter un peu les prix, ou peut-être... ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont, sont un peu lancés dans la distribution, puis ils étaient comme co-distributeurs d'un film, notamment Gotti, avec John Travolta.
Puis... Ah oui, qui a été un échec critique. Et,
ouais, qui se posait dans les pires films de l'année. Là, ouais.
Puis ça fait... Il y a des critiques que je suis sur YouTube qui ont fait de la route juste pour aller voir le film, pour aller voir le train wreck. Là. Ça a l'air assez drôle, ça.
Non, c'est
ben, super... drôle. Bon, c'est dommage, là, mais bon.
Ouais. Donc c'est ça. Fait que là, MoviePass, bref, les états financiers, ça va pas très bien. Puis, on pense que ça va bientôt soit fermer, soit complètement changer de plateforme ou de façon de faire. Mais l'impact sur l'industrie est réel. Et AMC aux États-Unis a lancé récemment le A-List Stub. Donc, ça, c'est un principe un peu similaire qui, lui, est chiffré à 20$ par mois. 20$ aux États-Unis, bien sûr, 20$ américains, et disponible dans tous les cinémas de la chaîne AMC, qui est quand même la plus grosse chaîne aux États-Unis. Et dans le fond, ça te permet de voir 3 films par semaine, IMAX compris, 3D compris, tout compris. T'as également des rabais sur la bouffe, des trucs comme ça. On a un truc un peu similaire au Canada avec les points scènes, mais tu sais, c'est tellement pas beaucoup de points, puis ça vaut tellement pas la peine que la comparaison est difficilement faite, là.
Ouais, puis avant il y avait les espèces de jeux là avant les films. Là.
C'est ça le time play.
Le time play, je jouais un peu à cachette un peu, c'était comme un peu honteux là, je me cachais dans mon banc puis je jouais, mais c'est qu'il donnait 100 points, puis au final quand t'as 1000 points, t'as un film gratuit. Donc souvent je jouais un peu sur le side, mais là ils ont baissé les prix, puis premier prix c'est 50 points, puis après ça t'as 10 points. Mais 10 points, c'est rien, là. Ça vaut même plus la peine de se faire chier avant le film avec l'application. C'est déjà, eux, ils trouvaient qu'ils perdaient de l'argent avec ça. J'ai rien compris, mais bon, ouais.
Ouais. Mais là, ce qui se sont aperçus, en fait, aux États-Unis, c'est que quand les gens ont des billets gratuits, et ils vont plus souvent au cinéma, ils vont voir des films qu'ils n'auraient de toute façon pas vus, si ce n'est peut-être cette carte-là. Et achètent du pop-corn, font tourner la machine, etc. Retrouvent le goût peut-être aussi d'aller au cinéma. Donc voilà. Mm-hmm. Alors, ne serait-ce que pour ça, même si MoviePass un peu meurt ou fait faillite, ben tu sais, il y a eu l'équivalent maintenant du AMC, et on espère éventuellement qu'il y aura de quoi d'un peu plus intéressant pour nous au Canada, notamment avec les points scènes.
Mais là, en France, hein, le système, il est là depuis longtemps.
Ouais, ouais.
En France, c'est tu payes au mois, puis tu as accès à tous les films que tu veux.
Mm-hmm.
Ouais, j'ai toujours été jaloux de ce système-là. C'est malheureux qu'on doive payer. Un billet rembourse ta passe.
Mais en France, il n'y a pas un... MoviePass, ce qui était vraiment impressionnant, c'est que eux, dans le fond, c'est la manière qui marchait, c'est vraiment ils remboursaient le billet à la chaîne. T'sais, peu importe... c'était quelle chaîne de cinéma, donc, puis il fonctionnait avec une espèce de carte de crédit affilié avec Mastercard, je pense, ou quelque chose comme ça.
OK.
Et bref, les cinémas ne pouvaient pas refuser. T'sais, c'était vraiment comme disponible partout. Tandis qu'en France, c'est quand même des partenaires. Donc, ça dépend des. Il y a différentes cartes, là, mais il n'y en a aucune vraiment qui fait comme la totalité des cinémas. Et ici, évidemment, bon, tu sais, mettons justement le truc de carte scène, mais c'est juste pour les cinéplex. Et puis, ce qui serait le fun, c'est d'avoir vraiment une carte, tu sais, que tu peux utiliser partout pour un tarif mensuel, comme le fait Netflix, comme le fait Spotify pour la musique, c'est un espèce d'équivalent. Et là, la raison pourquoi j'embarque sur le sujet, c'est que Mubi, qui est déjà bon, un petit service de streaming très sympathique qui présente en tout temps 30 films, et on est plus dans les films d'auteur, les films indépendants, les documentaires, des courts-métrages parfois. Donc, Mubi, au Royaume-Uni, c'est leur plus gros marché. Ils ont, je pense qu'ils ont annoncé qu'ils ont 100 000 abonnés au Royaume-Uni. Et là-bas, en fait, ce qu'ils vont offrir dès maintenant, en fait, c'est un billet par semaine à leurs usagers dans la plupart des chaînes, des grosses chaînes de cinéma, mais pour un seul film, tu sais, un seul film qu'ils ont choisi, qu'ils ont ciblé. Donc, par exemple, si cette semaine, il y a un film indépendant qu'ils trouvent chouette, comme The Rider, ou encore un documentaire comme Won't You Be My Neighbor, ben ils vont dire, cette semaine, avec ton abonnement, ça ne te coûte rien de plus, vu que tu es abonné à Mubi, prends ce code-là, puis échange contre le billet, va-t'en au cinéma, puis tu peux voir le film gratuit. Donc, c'est juste, wow, c'est juste cool. Ouais, c'est vraiment cool. C'est juste qu'à 4 films donc, par mois qu'on peut voir avec, avec ça, puis l'abonnement ne change pas. Donc, Mubi, c'est quoi? C'est 8$ par mois à peu près? Fait que ça donne accès à, tu sais, quand même 4 films indépendants. Puis ça, c'est le fun parce qu'on n'est pas non plus dans l'espèce de plateforme qui peut pas de toute façon être rentable jamais comme MoviePass qui donnait genre pour 10$ par mois un billet par jour dans toutes les chaînes de cinéma. Là, au moins, on est dans quelque chose de plus, tu sais, de plus restreint. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que le but aussi, c'est que ça perdure dans le temps puis que tu puisses utiliser ta carte. Et ça permet vraiment de cibler des films. Donc, comme le fait Mubi, en restreignant le nombre de films disponibles, c'est une façon de dire, ben nous, on vous dirige vraiment vers des films qu'on aime, plutôt que de vous donner accès à 10 000 films à la fois. Ce qui est pas mieux ou pire qu'un autre modèle, mais je trouve ça bien d'avoir les deux. T'sais, moi, je suis abonné à Mubi et Netflix, et d'autres aussi. Et donc, je trouvais que c'est vraiment une belle initiative, puis j'espère que ça va arriver au Canada un jour. T'imagines, tu sais, comme pouvoir voir 4 films par mois, mais tu sais, vraiment des films spécifiques, avec en plus ton abonnement, tu sais, à l'accès à la plateforme Mubi, c'est quand même vraiment cool, je trouve.
Ouais, puis Mubi, on leur fait confiance pour la qualité des films, donc on n'a pas la crainte de se faire livrer. J'essaie de choisir un film de merde qui vient de sortir. Peppermint.
Ouais, apparemment, c'est pas très bon. Hein,
ça. Non, c'est ça.
Donc voilà, alors props à Mubi, et on a hâte qu'au Canada et au Québec, éventuellement, les distributeurs s'ouvrent les yeux puis voient qu'il y a des belles initiatives de par le monde, mais ça va sûrement arriver dans 10 ans au Québec. Mais sinon, Rémi, tu disais récemment que tu étais donc au Mexique, parce que l'anthologie Montréal d'Éden était présentée dans un festival.
Oui!
C'est quel festival exactement?
C'est le festival Macabro!
Oh, fait ça le genre, donc, je présume.
Ouais, puis, tu sais, le Mexique, il y a vraiment beaucoup de gens qui vivent à Mexico City. C'est une population de 8 millions, si je me trompe pas. Donc, pas mal la population du Québec dans une seule ville. Donc, il y a même 3 festivals de genre à Mexico City. Nous, on était comme dans le middle one, parce qu'il y a Morbido, qui est le gros, qui est un peu le Fantasia du Mexique. Puis nous, on était à Macabro. Mais l'avantage, quand t'es dans un plus petit festival, c'est que t'es pas étouffé par le nombre d'invités, le nombre de films, la grosseur du festival. Donc t'as un plus petit cocon, tu rencontres, t'es plus proche des autres réalisateurs, t'es plus près du staff du festival. Mm-hmm. C'est vraiment un beau trip, puis ils nous ont vraiment accueillis comme des rois là-bas. On a passé une belle semaine, puis au point où on a tellement fait de trucs, le dimanche quand c'était le temps de présenter le film, le matin je me suis réveillé, j'avais un peu oublié que j'étais là pour présenter un film parce que j'ai eu trop de fun durant ma semaine. C'était vraiment cool. On est allé à l'île des poupées creepy, appelons-la comme ça. Si vous avez vu des top 10 des endroits les plus creepy dans le monde, c'est sûr que c'était là. Une toute petite île avec 2200 poupées accrochées dans des arbres démembrés. qui font suite à une légende où une petite fille s'est noyée, puis là, il y a un gars qui a commencé à accrocher des poupées dans les années 50 pour divertir l'esprit de la petite fille. J'ai vu des luchadors, j'ai mangé des tacos à tous les jours, je me suis fait un tatou de Bigfoot, il s'est passé plein des choses en une semaine. Je me sens comme dans l'épisode des Simpsons, ben, qui est finalement devenu des Hangover, là. J'arrive au pays, puis je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que j'ai passé une semaine là, complètement sur une autre planète. Puis c'est ça, ils ont rencontré aussi une équipe de production là-bas pour possiblement une coprod Mexico-Canada. Oh. Ouais, ben tu sais, je rentrerai pas dans les détails là, parce que c'est pas fait, mais on a eu comme trois rencontres pour développer un projet, donc il y avait ça qui se faisait sur le side aussi. Donc ça a été comme une semaine, je reviens pas reposé du tout, mais je reviens avec la tête pleine de beaux souvenirs. Puis ultimement, ben, il y a eu la projection du film qui a été magnifique. Le public réagissait. T'sais, on sait jamais avec un film sur Montréal comment ça va fonctionner à l'extérieur, mais les gens, je pense qu'ils ont bien aimé la carte postale qu'on a offert. Il y avait beaucoup de films aussi qui étaient faits avec les moyens du bord, qui étaient faits des projets de passion au festival. Donc les gens étaient là puis ils comprenaient le projet. C'était pas, ils s'attendaient pas à avoir un Marvel. Donc ils comprenaient que c'était un film low budget qui est fait avec les moyens du bord. Ça c'est toujours bien là, ça amène le public de ton bord. Ce qui témoigne de ça, c'est quand les gens restent au Q&A, comme c'était le cas, il y avait beaucoup de gens qui sont restés, qui ont posé des super bonnes questions sur how did you do that guys, parce que les gens comprenaient pas comment on avait fait avec un aussi petit budget pour faire le film. C'était un super trip là. Là, c'est le back to reality. Là. On retourne au Québec. mais tu sais, c'est ça. Là, ça a été une semaine off. C'était nécessaire. Ça revigore, disons. Ça met la tête pleine d'idées. J'ai pas vu beaucoup de films. J'ai vu trois films à travers le festival. On était tellement occupés qu'on avait très peu de temps pour voir des films. Puis,
et c'est pas facile, c'est la vie de cinéaste invité à l'international.
Puis comme c'est un petit festival, c'est pas une programmation comme Fantasia où il y a plein de méga premières, puis il y a 12 films par jour. La sélection est quand même restreinte, mais tu sais, reste que je...
Puis j'imagine qu'il y a peut-être beaucoup de films que t'as déjà vus ailleurs, parce que t'en fais beaucoup des festivals aussi.
Ouais, il y en avait plusieurs dans la programmation que j'avais déjà vu. J'ai vu entre autres un film qui s'appelait Bloodfest, qui est un micro-budget vraiment trippant. Là. C'est un film à propos d'un festival d'horreur, des jeunes qui s'en vont là-bas, dont un que son père lui défend d'y aller, puis se rendre là-bas. C'est un espèce de méga festival divisé en sections. Il y a la section zombie, la section clown-tueur, la section maison hantée.
C'est dans le même état.
Il se retrouve là-dedans, puis finalement, ben le gars qui dirige la place ferme les portes, puis il y a des vrais... Toutes les monstres sont vrais, puis tout le monde se fait chasser dans le parc pour se faire tuer. Puis, tu sais, c'est vraiment cool, là. Mais c'est un film de festival. Je peux pas donner une méga recommandation à ça, mais c'est un film de gang. On prend une bière ensemble, puis on regarde ça. Ce qui m'avait le plus impressionné, c'est le budget, parce que tu regardes le film, c'est quand même impressionnant, là, tous les univers qui ont été créés dans le film. Puis on a parlé après au réalisateur, puis il nous disait qu'il a fait ça avec 1,5 million, puis c'est un micro budget pour ce que c'était. Donc, tu sais, c'est des films comme ça qui sont impressionnants à ce niveau-là, mais qui sont peut-être pas des masterpieces, mais bon, dans le contexte d'un festival, avec en plus en compagnie des réalisateurs, des équipes, c'est sûr que c'est du bonbon. Mais c'est ça, j'ai pas vu rien qui m'a chaviré, là, qui va vraiment changer la vie, là, que je peux défendre sur le podcast. Mais voilà, c'était une super expérience. Mais puis le film, ben, continue sa vie, comme on a dit, à Québec qui s'en vient. Puis là, officiellement pour Montréal, il y a le festival Spasme qui a été annoncé. Oh. Donc on va passer le 27 octobre, juste avant le gros party d'Halloween. Ceux qui sont jamais allés au party d'Halloween de Spasme, c'est les meilleurs parties d'Halloween à Montréal. C'est le Théâtre Plaza qui est entièrement dédié à Spasme. C'est full, c'est rempli, c'est costume obligatoire. Puis ils font toujours C'est comme un décompte. Chaque décennie, c'est une heure. Donc, t'as les années 70 pendant une heure, les années 80 pendant une heure, 90. C'est vraiment des cool parties. Puis juste avant, pour craquer la foule, ben, il y a Montréal d'Eden qui passe. Ça va être une belle occasion de le voir à Montréal dans un super festival que j'adore, que j'ai toujours adoré. Mm-hmm. Donc voilà, pour ceux qui l'ont manqué à Fantasia, c'est votre prochaine occasion.
Ah, c'est cool, c'est cool. J'aimerais ça t'entendre quand même. Tu me dis que tu as vu un film au festival, puis tu n'es pas trop sûr ce que tu en penses, mais j'aimerais ça un peu que tu expliques qu'est-ce que tu veux dire par là. On parle de Madeline, qui est quand même un des films américains les plus...
Je l'ai vu après le festival. Je l'ai vu récemment, en fait. C'est pas le genre de film qui passe au festival. Puis même qu'il a passé à Fantasia, mm-hmm. puis c'est... Je suis assez curieux. Tu sais, c'est étrange dans la programmation de Fantasia. Parce que, bon, il n'y a pas juste du cinéma de genre en Fantasia, mais ça reste que c'est un drame sur la maladie mentale. La proposition est vraiment particulière, puis je l'ai vu hier, puis ce que je t'ai dit en fait avant, Madeline, j'ai vraiment adoré ça. Le film a fini, puis j'ai vraiment adoré, mais c'est tellement difficile d'en parler. Puis je recommande à tout le monde d'aller voir la bande-annonce sur YouTube.
Ouais, ça c'est vraiment
je pense qu'on
cool.
en avait... je pense qu'on en avait parlé sur un autre podcast, mais la bande-annonce a été faite spécialement... Ben, c'est une œuvre en soi, là. Il y a un générique pour la bande-annonce, donc la bande-annonce, c'est pas ce qu'il y a dans le film. Ils ont vraiment construit un trip visuel de 2 minutes avec des espèces de découpages qui deviennent du vidéo. On dirait un peu un clip de Michel Gondry, en fait. C'est des techniques rudimentaires, mais là, avec des trucs à l'ordi... c'est vraiment cool comme bande-annonce. Je l'ai regardé plusieurs fois, juste la bande-annonce, donc j'avais vraiment hâte de voir le film. Puis ces techniques-là sont même pas utilisées dans le film, mais il y a toutes sortes d'autres choses qui sont faites à travers le film. Mais c'est sûr, comme je t'ai dit, je l'ai regardé hier, puis ça va être tellement difficile de te décrire l'expérience de ce film-là. Parce que c'est ça, c'est à propos d'une jeune fille qui est atteinte d'une jeune fille de 16 ans qui est atteinte d'une maladie mentale. Sa mère est surprotectrice, est interprétée par Miranda July, l'artiste visuelle qui avait fait aussi le film Me and You and Everyone We Know et The Future. Donc, tu sais, juste d'avoir casté Miranda July, ça vous donne un peu un cue sur le genre d'intention derrière le film. C'est un film avec beaucoup de délire visuel. Bon, là, j'ai coupé un peu mon synopsis, là. Mais la jeune fille, en fait, se retrouve dans une troupe de théâtre. Puis la dame qui monte la pièce de théâtre développe une fascination envers Madeline. Et elle commence à développer son projet de théâtre autour de Madeline. Donc, plus juste autour de ses idées originales, mais autour de qui Madeline est. Elle change le nom du personnage, mais tout commence à s'imbriquer avec la réalité de Madeline. Commence à la couver, puis à la protéger elle-même, comme la mère de Madeline fait. C'est un film qui est présenté d'une façon un peu expérimentale, avec une caméra ultra libre, des bouts qu'on sait pas probablement filmé guérilla dans les rues de New York, la caméra témoin qui va suivre les personnages, des fois un montage qui va rappeler du Terrence Malick où on va se perdre dans les yeux des personnages, dans les mains, dans les objets qui les entourent, aussi le son, la façon que le son est utilisé, t'as des tracks de son qui vont superposer, des fois les dialogues, les gens vont parler, mais les voix vont devenir écho, ils vont se perdre. Puis tout ça, c'est pour expliquer ce que Madeline vit dans sa tête. Puis en parallèle de tout ça, ben, il y a le développement de la pièce de théâtre qui est ultra expérimentale. Donc il y a des extraits de cette pièce-là qui se mêlent à la réalité de Madeline. Mais c'est ça, c'est tellement difficile de décrire l'expérience.
Mais c'est drôle, tu parlais de Michel Gondry pour la bande-annonce, puis en t'attendant de parler du film, là, justement, je pense à Charlie Kaufman. Fait que je sais pas si c'est peut-être un lien à faire avec l'espèce de narration éclatée, puis l'identité qu'on sait plus qu'est-ce qui est vrai ou pas.
Ouais, c'est un bon parallèle, mais c'est du Charlie Kaufman sans l'humour de Charlie Kaufman, disons, parce que Charlie Kaufman, il y a toujours sa touche d'humour un peu sombre là, à l'intérieur, mais là, ça reste que c'est un drame, il y a des bouts même qui... assez malaisant. Madeline se cherche dans son... C'est un coming of age, donc Madeline se cherche dans son développement, mais comme elle n'est pas comme les autres, des fois, elle a des espèces de psychoses où on ne sait jamais exactement c'est quoi sa maladie, mais on se dit que c'est une genre de schizophrénie, elle va se prendre pour des animaux, elle va se... Mais tout ça fait partie de sa vie puis de sa réalité, donc on suit elle puis on accepte qu'elle est comme ça, mais c'est assez déstabilisant. Puis souvent même, la réalisatrice utilise des ellipses, donc on va passer d'une phase de Madeleine à une autre de façon assez sec, mais on se dit que c'est probablement comme ça qu'elle vit, donc... Le spectateur se fait vraiment mettre dans les souliers de la jeune fille. Autant au niveau... l'esthétique se mêle énormément avec le niveau narratif. C'est vraiment pas un film traditionnel. C'est un film que je vais vouloir revisiter à un certain point. Il est pas très long, donc c'est pas trop lourd à revoir. Là. C'est pas un Tree of Life de 2h30. Là. C'est un film d'une heure et demie, mais qui est assez tight, mais reste que c'était beaucoup à gober, mais j'ai applaudi dans mon salon en finissant, puis j'ai vraiment hâte de le revisiter pour en sachant ce que j'ai vu, parce que au début il y a vraiment un premier 15 minutes d'adaptation à rentrer dans cette esthétique là puis aussi à essayer de comprendre le personnage. Puis un coup que t'as saisi le personnage, ben t'es complètement en immersion dans le film. Okay. Donc c'est certain que je vais vouloir le revoir avec que je connais déjà du film. Ça va me donner une autre vision du film.
Nice.
Ouais. Grosse recommandation. Puis je pense qu'il sort en salle très prochainement.
Oui, c'est possible. J'ai pas la date sous les yeux, mais il me semble que je l'ai vu effectivement dans le calendrier prochain à venir.
Si j'ai un guess, ça va sûrement être au cinéma du parc. C'est comme... S'il y a un cinéma à Montréal qui le passe, là.
D'ailleurs, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il joue au Cinéma du Parc dans le cycle de minuit en septembre?
Ah, non!
Laissez bronzer les cadavres d'Hélène Cattet et Bruno Forzani. Un an plus tard, après sa première au Festival Nouveau Cinéma. Puis je trouve ça dommage un peu qu'il n'y ait pas eu de projection avant. J'ai l'impression que là, le buzz est un peu passé. Mais bon.
Hey, ça a été long, c'est vrai, là.
Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est juste je pense que c'est un style de cinéma qui est un petit peu trop expérimental pour vraiment pouvoir attirer les foules autres que les cinéphiles très au courant, là. Donc, mais bon, pour ceux qui auraient vu peut-être leur film précédent, Amère ou L'étrange couleur de l'âme de ton corps, on est vraiment dans le même mode.
Mais plus accessible. On avait parlé l'année dernière au podcast, mais. Ça reste que c'est un film qui est plus accessible au niveau narratif pour un public général. C'est sûr que visuellement, c'est déstabilisant pour quelqu'un qui va regarder du cinéma très commercial, mais c'est pas un film difficile à comprendre. C'est un vol de bande qui tourne mal.
En fait, puis...
Ouais. Donc, c'est magnifique. Puis ça fit absolument dans la programmation de minuit.
Ouais. Puis tu as abordé Tree of Life en fait, puis je vais juste revenir rapidement là-dessus parce que est-ce que tu es au courant de la nouvelle version du film que Criterion sort?
Ah non, oui. Ben, j'ai vu que Criterion sortait, mais c'est ça, parce je savais pas que c'était nouveau.
Il y a un nouveau Blu-ray et il y a une nouvelle version de 188 minutes, donc une quarantaine de minutes de plus. Et Terrence Malick a vraiment insisté lors de la sortie de ce Blu-ray-là pour dire en entrevue que ce n'est pas une version étendue du film, ce n'est pas la version d'Arthur Scott, c'est un nouveau film. C'est pas seulement des scènes coupées, ils ont vraiment remanié le montage au complet. Il y a des scènes alternatives, il y a des bouts. Et Criterion, justement, quand ils ont commencé à travailler sur ce Blu-ray-là, j'ai lu un article avec le président de Criterion. C'est vraiment fascinant un peu de la genèse de ce projet-là, parce que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont là-dessus. Et ils ont dû, comme tout, refaire la colo du film pour que ce soit cohérent avec les nouvelles scènes.
Ouais, t'as pas le choix, là, ouais, c'est effectivement. Puis le mix sonore.
Oui, c'est ça, parce que, tu sais, c'est plein de scènes qui ont été un peu, mettons, rapidement, tu sais, pas utilisées, fait que là, elles sont pas tout à fait finies. Et ça l'a fini par devenir, dans le fond, c'est le projet le plus coûteux de Criterion pour un seul film, là. Fait que là, ils espèrent évidemment que d'autres titres vont pouvoir bien se vendre, ainsi que celui-ci pour rentrer dans leurs frais, là. Mais le film, d'ailleurs, a joué dans quelques festivals là, jusqu'à présent, le nouveau montage, et j'ai très très hâte d'avoir ça. Je sais que moi, j'avais vu la version longue, donc, du film The New World, son Pocahontas, là, et qui était quand même... Moi, j'ai trouvé que c'était très très bon. Je préfère la version de cinéma qui était sortie à l'époque. Donc, j'ai hâte de voir ce nouveau montage-là. Et voilà. Donc,
je me souviens tellement peu de Tree of Life, honnêtement. Ben, le contexte, c'est que j'étais à Amsterdam. ça commence comme ça, là. On s'entend que j'étais... j'étais à Amsterdam dans un vieux cinéma. Puis j'avais pris... on peut boire de la bière à Amsterdam dans les cinémas. Fait que j'avais une grosse bouteille de Grolsch dans mon siège. avec la... Je me souviens que ce que je me souviens le plus, c'est que ça ouvrait, puis il y a une pub de Grolsch au début, puis ils disent, là, c'est le temps de popper votre bière. J'ai popé ma bière, puis je suis un peu... On s'entend, là, c'est Amsterdam, fait que j'étais un peu... Puis j'ai vraiment aimé l'expérience, mais je m'en souviens tellement peu, là. Il va falloir que je le revisite, c'est certain.
Bon, ben, mesdames et messieurs, c'était à point de vue que vous avez entendu la meilleure critique de Tree of Life de l'histoire du cinéma académique.
Il y avait Brad Pitt, là, puis il y avait des dinosaures, puis à un moment donné, il n'y avait pas Sean Penn.
Ben, peut-être qu'il va se retrouver dans la nouvelle version, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire.
Ah oui, ça serait cool quand même. Toutes les comédiens coupés, là.
Ouais. J'ai hâte de voir ça. Donc, voilà, Tree of Life qui revient dans une... En fait, les deux versions sont disponibles sur le Blu-ray et ou DVD qui vient de sortir de la part de Criterion. Sinon, Rémi Fréchette, moi, en ce moment, je suis en plein rush, là. Je suis en période de crunch, en fait, pour programmer à plein écran. Fait que vraiment, ce que j'écoute, c'est à peu près que des courts-métrages québécois et français depuis quelques semaines. Et j'adore ça, hein, c'est vraiment le fun. J'adore ce projet. Mais on dirait que pour décompresser de ça, ce que j'aime le plus en ce moment, c'est écouter des documentaires. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup de films de fiction. En fait, c'est majoritairement ça.
Des cours de fiction.
Ouais.
Ouais, je comprends absolument. I feel you. Ça, c'était mon printemps. Je te comprends tellement.
Ouais, c'est
j'écoutais ça.
Ça
ou des documentaires ou des séries. C'est comme un autre beat complètement. Les séries, c'est des courbes narratives qui durent plusieurs épisodes. Ça faisait tellement contraste avec les courts-métrages. J'en avais besoin. Mm-hmm. Je te comprends.
Fait que là, c'est ça. Fait que dans la dernière semaine, en fait, ce que j'ai écouté, c'est simplement trois documentaires. Trois des documentaires les plus acclamés de l'année également. On est allé voir aussi le film Kin au cinéma, mais ça, on n'en parlera pas.
T'es allé voir Kin?
Ouais, j'avais eu des billets.
Le box-office est tellement désastreux, t'es peut-être un des 10 qui est allé au Québec.
Ouais. j'avais reçu des billets avec mon emploi.
Attends, mais Kin en trois lignes, là.
En trois lignes, ben c'est... En français, en fait, ils ont bien compris par sa traduction, c'est Kin le commencement. Et ça file, et puis c'est par les producteurs de Stranger Things. Et ça file vraiment comme un pilote de série Netflix en 10 épisodes. Que là, j'ai vu le pilote, puis que je suis comme, bah, il y a des idées, j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Ah, ça va pas se développer parce que là, finalement, il y a tellement floppé qu'il n'y aura jamais de suite. Mais ouais. C'est vraiment, vraiment ça. Moi, je pensais, je sais pas si tu as vu l'affiche. L'affiche était très belle, très cool, donnait une bonne vibe science-fiction. Puis moi, je suis un gros fan de science-fiction. Mais finalement, on est vraiment dans l'espèce de drames urbains, de crimes, de gangs de rue, de drogue dans Détroit, où tout est gris, tout est sale, caméra épaule, les gens sont pauvres. Le protagoniste est un jeune noir de 14 ans qui a été adopté par un vieux Dennis Quaid qui meurt tôt dans le film à cause de dettes de son fils qui vient de sortir de prison. Puis là, c'est James Franco tatoué qui comme l'exécute. Puis là, il veut poursuivre les autres parce qu'ils leur doivent l'argent. Puis là, ils partent, dans le fond, le fils adoptif et l'autre fils de Dennis Quaid, partent en cavale dans un pick-up, un vieux pick-up. Puis là, ils se ramassent avec une stripteaseuse aussi qui suit, qui est fauchée, qui essaie de les voler. Mais à travers tout ça, on ajoute l'élément que le petit découvre un gun du futur... peut-être extraterrestre, peut-être du futur, on sait pas trop, qui a plein d'effets cool de lumière puis de son, tout ça. Et c'est vraiment dans les 15 dernières minutes qu'on comprend un peu d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, pourquoi que c'est là, qui est ce personnage-là, qui sont ses parents, tout ça. Et qui nous promettent finalement vers des aventures dans une éventuelle suite qui aura plus de budget, on l'espère, t'sais, parce que ça, clairement, ça a été tourné avec pas grand-chose. Mais cette suite n'arrivera jamais. Donc, on est vraiment dans le banal. C'est ça fait vraiment pilote de série télé qui a échoué.
Donc, je comprends que tu as adoré ça, c'est ça, hein?
Ben, non, pas vraiment. ouais, j'ai rien d'autre à dire de ça. Je m'en souviens déjà plus beaucoup, mais ça vaut pas la peine. Si je pense plus qu'il était à l'affiche, d'ailleurs, le film. Mais beaucoup plus réjouissant, c'est un trio de documentaires que j'ai vu, comme je disais, trois documentaires un peu parmi les plus acclamés cette année. Et je serais même pas surpris, en fait, d'avoir les trois nominations dans la catégorie meilleur documentaire cette année. Le premier, peut-être le plus... pour l'instant, en tout cas, le documentaire qui a le plus de buzz, en dehors de peut-être le nouveau film de Michael Moore qui vient d'avoir sa première au TIFF. qui est Fahrenheit 11-9 sur Trump, là. Puis tu sais, l'affiche est du bonbon, là, tu sais, c'est comme Trump en avant-plan qui golfe, et puis à l'arrière-plan, c'est la Maison Blanche avec un champignon nucléaire, là, tu sais.
Actually, it's the worst movie ever. Just don't go see it. You should go see some Dinesh D'Souza film instead. He's a genius.
Non, mais honnêtement, tu sais...
Merci beaucoup. C'était mon imitation de Trump pour la semaine.
Mais honnêtement, on peut beaucoup charler sur Michael Moore, puis on peut beaucoup charler sur Trump. Mais puis sur... peut-être que ce film-là va être... peut-être pas la bonne façon de répondre à Trump. Mais j'ai quand même hâte de voir ça, parce que si quelqu'un peut être très drôle, c'est bien Michael Moore, donc j'ai hâte de voir ça. Mais pour en revenir, donc, à ça...
Ouais, on a dévié quelques fois, mais ouais, allons-y.
Au documentaire, c'est ça qui fait le buzz cette année, Won't You Be My Neighbor, de, de Morgan Neville. Morgan Neville, qui sait, c'est devenu un peu l'un des documentaristes les plus productifs et acclamés des dernières années. D'ailleurs, il travaille sur plusieurs projets avec Netflix. C'est lui notamment qui avait réalisé 20 Feet from Stardom, qui avait remporté l'Oscar en 2014, que j'ai pas vu ce film-là en fait, mais puis je parcours sa filmographie, j'ai à peu près rien vu de lui, mais tu sais, il est vraiment vraiment productif. Cette année, il a également fait quelques épisodes de la série Ugly Delicious. Il a également fait quelques épisodes l'année dernière de Abstract, The Art of Design, deux séries qui sont sur Netflix. Et cette année, il sort également un documentaire, tu sais, un autre feature documentaire de 90 minutes sur Orson Welles et, dans le fond, le nouveau film qui est finalement, tu sais, complet, là, The Other Side of the Wind, qui a été justement également ce film-là d'Orson Welles, ben, la restauration et un peu le montage de ce film-là a été produit par Netflix également, donc tout est dans tout. Et Won't You Be My Neighbor, en fait, c'est un documentaire sur Fred Rogers, qui était donc le créateur, l'animateur, le compositeur de la série Mr. Rogers.
Neighborhood,
ouais. Qui, moi, évidemment, je suis pas américain, donc c'est pas une série que j'ai vraiment jamais connue. Mais pour vous donner une idée, dans le fond, c'est une espèce de... c'est un show éducatif pour vraiment les enfants en bas âge, avec des sketchs, avec des marionnettes. On pourrait un petit peu peut-être rapprocher ça de Passe-Partout. J'essaie de penser un peu à des équivalents québécois, mais tu sais, je pense que le ton de Passe-Partout, c'est un peu ce qui se rapproche le plus, là. Tu sais, qui se veut un peu des sketchs divertissants, mais dans lequel il y a toujours une espèce de message, puis on essaie un peu de vraiment comme... montrer aux enfants, t'sais, l'empathie, le partage, la confiance, les grandes leçons de vie. Est-ce que tu l'as vu, ce documentaire-là, Rémi?
Non, je ne l'ai pas vu, non.
Ouais.
C'est pour ça que je suis comme vraiment curieux de t'entendre.
Ben, mon problème avec ça, c'est que je comprends pourquoi ce film-là est acclamé maintenant. Parce que c'était vraiment une émission, tu sais, très gentille, naïve et genre optimiste, comme on en fait presque plus, finalement. Et cet animateur-là, évidemment, était très charmant, toujours souriant, était toujours près des enfants. Tu sais, quelqu'un qui est comme plus pur que pur, là. Puis d'ailleurs, lui, en fait, son parcours, c'est qu'à la base, il voulait devenir, dans l'église, en fait, puis devenir prêtre, devenir monseigneur, quelque chose comme ça, cardinal. Tu sais, c'est vraiment ça, son parcours de vie. Mais éventuellement, il y a eu des vacances l'été, puis il a commencé à travailler par hasard sur un studio de télé, puis il a adoré son expérience. Fait que rapidement, il a comme, de fil en aiguille, il en est venu à faire son propre show, qui rapidement est devenu une espèce de phénomène national qui a un peu formé peut-être une génération aux États-Unis. On parle de la deuxième moitié des années 60 et des années 70. Et puis ensuite, il y a eu quelques reprises, quelques shows spéciales, quelques apparitions, jusqu'en 2002. Parce qu'il nous a quitté en 2003, Fred Rogers. Et c'est devenu peut-être la figure paternelle d'une génération aux États-Unis. Le problème avec le film, c'est pas tant un problème, c'est que le film est très très formaté. C'est un film qui va, justement, il y a eu des acclamations, des critiques élogieuses, des commentaires du genre « ça fait donc du bien un film comme ça en ce moment ». Pourquoi en ce moment? Parce qu'aux États-Unis, on traverse peut-être l'histoire politique la plus mou et autre, là, t'sais, et sociale, et raciale, et tout ça, et économique, la plus mouvementée et difficile de facilement les 50 dernières années. Donc, d'avoir une espèce de bonbon comme ça, sans aucun cynisme, aucune ironie, aucun second degré, ça fait du bien. Mais ça en fait quand même un portrait assez unidimensionnel où, dans le fond, ce serait un peu comme faire une espèce de documentaire d'une heure et demie qui ferait l'éloge de Passepartout, tu sais. Je veux dire, ouais, ok, t'sais, surtout pour quelqu'un comme moi qui, bon, Passepartout, à la limite, j'ai mes repères, mais ça, je l'ai jamais vraiment écouté. Donc là, je peux comprendre qu'est-ce qui apportait de différent dans le paysage télévisuel. Je peux comprendre. Le travail de recherche est quand même assez fascinant puis assez évocatif, là, si on se le cachera pas. Mais finalement, qu'est-ce que c'est sinon une glorification nostalgique d'une émission de PBS pour les jeunes de l'époque, t'sais? Et j'ai l'impression que ce film-là, ça s'adresse peut-être à un public qui a pas eu de bonnes nouvelles puis de raisons de sourire depuis trop longtemps, t'sais. Fait que c'est pour ça que si on le regarde peut-être d'un point de vue d'un Québécois, d'un Canadien, où ça va quand même, c'est quand même moins pire, là, t'sais, dans notre situation, là. Il n'y a pas des tueries dans les écoles à chaque semaine, t'sais. Ben, c'est dur d'avoir autant peut-être ce sentiment de soulagement-là. Le film, quand même, va, puis ça, c'est très bien d'avoir, je pense, ces segments-là, vers la fin, il va un peu aborder certaines critiques qu'on pouvait avoir face à ce personnage et à cet homme. Notamment que à chaque fin d'émission, l'espèce de chanson finale qui fermait l'émission, c'est une espèce d'émission où il dit tu es spécial, je t'aime, tu es unique, ne l'oublie jamais. T'sais, des espèces de vraiment des. T'sais, puis les messages, là, c'est vraiment premier degré. T'sais. Mais ça, ce que certaines critiques ont accusé Fred Rogers puis cette émission-là de faire, c'est une génération d'enfants gâtés qui se disaient ben si je suis spécial, j'ai pas besoin de faire des efforts et tout devrait m'être fourni. T'sais.
Oh my God.
Mais je peux comprendre l'argument. Et puis lui
Faut quand
aussi.
même gratter, là. C'est une émission pour enfants qui est censée être positive, puis
Ouais. Non, non, mais ça faisait du bien en fait d'avoir un peu d'autres points de vue dans le film parce que
Ah
sinon
oui,
c'était
je comprends.
très. Ouais. Un autre.
Mais tu sais, Fred Rogers qui finit en disant vous êtes tous différents, toi et t'es pauvre, toi et va travailler.
Non, mais,
C'est sûr
non, mais par contre, ce qui est vraiment bien de cette émission-là, pour les extraits que j'ai vus, c'est qu'il avait vraiment pas peur de se mouiller, de parler de sujets durs, de parler de faire allusion à des choses qui se passaient. T'sais, notamment, là, il y avait eu. L'explosion de Challenger,
Ouais.
de la fusée dans les années 90, début des années 90, je ne me rappelle plus quelle année exactement. Et évidemment, ça a comme traumatisé une génération. Et lui a fait une émission spéciale comme la semaine suivante pour expliquer puis aborder directement ça, puis de dire aux enfants pourquoi. T'sais. Dans d'autres émissions, il va aborder la mort, le divorce. Il va parler. Et puis d'ailleurs, là, t'sais, il était à la retraite, mais après le 11 septembre, on l'a engagé pour faire quelques petites capsules de 30 secondes ou de 1 minute qu'on diffusait à la télévision. T'sais. Ça donne un peu une idée de l'impact qu'il y avait dans l'imaginaire collectif. C'est un peu l'espèce de grande figure, le grand-père bienveillant auquel on venait.
Un peu comme Bill Cosby, là, dans le fond.
Ouais.
Non, tu peux pas. Continue, Paul. Pas continue. Arrête-toi pas. Arrête-toi pas, s'il te plaît.
Non, mais c'est justement. Et donc, je comprends peut-être son pouvoir qu'il y a eu dans l'imaginaire américain, mais malheureusement, ce n'est pas la mienne. Et ce film-là, au final, tu sais, c'est dur vraiment de voir au-delà de. Évidemment, ça fonctionne, ça, mais si on n'a pas vécu ça, c'est un peu étrange vraiment de voir tout l'attachement que put avoir ce personnage-là. Ça en fait pas un mauvais film, mais je trouve que ça en fait un documentaire assez formaté qui sombre un peu trop dans le nostalgisme. Mais c'est peut-être effectivement le remède nécessaire pour les États-Unis. Autre film, Film Worker de Tony Sierra. Est-ce que tu t'es entendu parler de ce documentaire-là?
Pas du tout, ça me dit rien.
Film Worker, évidemment, ça va peut-être plus nous parler, nous cinéphiles que nous sommes. C'est sur la carrière vraiment exceptionnelle et contre toute attente de Léon Vitali. Est-ce que ce nom te sonne une cloche?
Du tout.
Léon Vitali.
Tu vas m'apprendre des choses.
Léon, ben, ça va rapidement, tu vas comprendre un peu de où on s'en va. Léon Vitali, c'est un jeune acteur britannique dans les années 60, début 70, qui poursuit sa feuille de route, fait du Shakespeare, fait de la scène, fait des publicités, tout ça, ça va bien. Il va voir un certain jour de 1968 un film au cinéma qui s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace, d'un certain Stanley Kubrick. et va trouver là le plus grand film qu'il a vu jusqu'à ce jour. Quelques années plus tard, il aura la chance de voir Clockwork Orange et va se dire, il faut que je travaille pour cet homme, Stanley Kubrick. Et de fil en aiguille, passera une audition pour un certain Barry Lyndon. Et donc, obtiendra le rôle de, pas le rôle titre, mais le plus jeune, en fait, dans le film. Là, ça fait longtemps que je l'ai vu, là, je me rappelle plus exactement de toutes les scènes, mais tu sais, c'est comme l'autre personnage principal qui a une grosse mouche, là. Et puis, finalement devient. Moi, c'est plus de lui que je me rappelle que de Barry Lyndon, là. Mais c'est ça, il aura donc un des rôles titres, ben, pas le rôle titre, mais l'un des rôles principaux de ce film. Et obtient des éloges pour ce rôle, obtient des éloges pour ce film, et sa carrière est vraiment en plein essor, là. Tu sais, là, il est quoi, il est peut-être trentaine, tu sais, puis tout est promis envers lui. Mais sur le tournage, qui dure très longtemps, parce que Barry Lyndon, déjà, c'est un tournage très difficile. On se rappelle que ils ont développé une nouvelle lentille avec la NASA pour pouvoir tourner à comme F0, pouvoir tourner uniquement avec la lueur des chandelles. Donc, tournage extrêmement compliqué, mais lui, il est déjà en fascination envers Stanley Kubrick. Et au terme du tournage, va le voir et lui dit, je ne veux plus jouer, je veux être derrière la caméra, je veux travailler pour vous, Monsieur Kubrick. Et ce qu'il fera tout au long de sa vie et même jusqu'à maintenant. Donc, évidemment, bon, la carrière de Kubrick post-Barry Lyndon, c'est uniquement trois films, Shining, Full Metal Jacket et Eyes Wide Shut, mais ce sera un travail quotidien, un travail 7 jours sur 7, 15 heures par jour, sinon plus, et il deviendra vraiment son homme à tout faire, son bras droit, son assistant. Et lui, il est très très modeste là-dedans, et il se définit comme un film worker, c'est vraiment ça son poste, et ça ne l'insulte pas du tout. Il revient sur sa carrière, donc, parce que le film, il y a des entrevues de nos jours qui sont mêlées à des images d'archives, des extraits de films. Et lui, c'est vraiment l'espèce de le technicien, l'assistant humble qui est comme juste content de la vie qu'il a eue. Puis tu sais, c'est tellement étrange parce que c'est à peu près le seul cas où tu as un acteur comme ça qui décide de passer derrière la caméra parce que le contraire va être souvent vrai, tu sais.
Ouais.
Ou alors, si un acteur passe derrière la caméra, c'est pour devenir réalisateur, tu sais, comme Clint Eastwood, comme Bradley Cooper, justement, cette année. Mais de vraiment comme ça être dans l'ombre de Stanley Kubrick, c'est à peu près inédit. Et lui, il en tire une immense joie. Et puis lui, il dit, tu sais, j'ai travaillé pour le plus grand cinéaste de notre époque, tu sais, du 20e siècle. Pourquoi je devrais me plaindre, tu sais? Puis tu le vois de nos jours, là, tu sais, il fait un peu hippie avec ses cheveux longs, son bandana, il est tout maigre, tu sais, puis il dit, maintenant il vit de manière tellement modeste parce que depuis 99, depuis la mort de Kubrick, en fait, ben lui il travaillait vraiment pour la compagnie de Kubrick. Mais maintenant, en fait, il n'est plus employé de personne et il arrive parfois de temps en temps d'avoir un cachet. Mais c'est encore lui qui va superviser les restaurations, les sorties DVD, ensuite Blu-ray, ensuite, notamment en ce moment, il y a la restauration de 2001. Il y a deux restaurations concurrentielles en ce moment de 2001 qui font le tour du monde. Et il va toujours assister les studios puis assister les compagnies de restauration là-dedans parce que il a une connaissance de ces projets comme nul autre. Et puis il sait de quelle manière. Puis tu sais, Kubrick, on le sait à quel point il était maniaque de contrôle. Puis toutes les bandes-annonces dans toutes les langues possibles, tous les matériels, tous les DVD, ça devait être approuvé par son studio, par sa boîte de production. Et c'était souvent, souvent Léon Vitali qui passait au genre frame par frame, au fil fin, tous les bandes-annonces pour être sûr que ce soit dans les bonnes couleurs, le bon format, que tout soit bon. Donc, pour ceux qui sont un peu fans de Kubrick, puis ça devrait être à peu près n'importe quel cinéphile qui se respecte, ben, ce film-là, c'est un peu une mine d'or. Et aussi, c'est une espèce de regard particulier sur ces hommes de l'ombre, en fait. Parce que c'est ça qu'on a tendance un peu trop souvent à déifier les auteurs, puis les cinéastes, puis tu sais, à se dire, Kubrick, c'est lui qui a tout décidé, tout ça. Mais ça reste que c'est des. Tu sais, à moins de faire vraiment du cinéma expérimental, le cinéma, c'est un travail d'équipe. Et c'est un rare regard sur ces hommes de l'ombre, tu sais. Puis lui, justement, tu vois qu'il est un peu mal à l'aise des fois de parler de lui, puis il est toujours prompt à renvoyer la balle vers Kubrick, puis à se rappeler des trucs comme ça. Puis c'est quand même assez émouvant de voir comme ça. Peut-être que c'est mon côté prolétaire, mon côté genre classe moyenne qui parle, mais je trouve ça beau de voir comme un documentaire là-dessus.
Ah, tu me donnes vraiment envie de le voir. En tout cas,
Ouais.
j'avais jamais entendu parler de ça, puis c'est certain, certain que je vais plonger là-dedans.
Ouais, c'est vraiment le fun. Ensuite, je trouve que le documentaire laisse quand même un peu sur sa fin, dans le sens que pour un documentaire sur un cinéaste aussi impressionnant, tu sais, je trouve que, mettons, les nouvelles entrevues sont filmées un petit peu tout croche, puis je trouve qu'en 2018, il n'y a plus vraiment d'excuses avec le matériel qui existe, là. Fait que ça, c'est un peu dommage. Mais tu sais, vraiment, ça donne envie de se replonger dans sa filmographie. Et c'est fascinant de voir, tu sais, des photos de plateau une après l'autre, puis de voir tout le temps, tu sais, toutes les photos de plateau qu'on a toutes déjà vues un peu avec Kubrick, tout ça. Puis, mais là, de voir, crime, c'est vrai, à côté, il y a toujours Léon Vitali, cet homme un peu frêle, blond, avec son foulard, toujours. Puis de se dire, ah oui, c'est lui. Puis d'ailleurs, un des premiers rôles qu'il a eu, c'est lorsque Kubrick, en 78, je pense, lui a envoyé le livre de Stephen King, The Shining. Il lui a dit, lis ça, et là, il l'a lu, tout ça, je pense, avec mon prochain projet, qu'est-ce que tu dirais d'aller en Amérique me trouver le petit garçon? Et c'est vraiment lui qui, après des centaines et des centaines d'entrevues, a déniché Danny Lloyd, qui a donné donc un des rôles d'enfant les plus iconiques au monde. Et sur le plateau, c'était vraiment lui qui était, il était sous sa responsabilité. Donc, c'est avec lui qu'il a appris. Puis lui aussi, c'est qu'il avait une formation d'acteur, donc c'était vraiment un très bon coach d'acteur. Vraiment comme un film assez fascinant sur cet homme qui a vraiment comme un peu, je dirais pas tout sacrifié, mais qui a clairement sacrifié ce qui s'annonçait comme une carrière comme vraiment prometteuse parce qu'il croyait en ce projet fou d'épauler Stanley Kubrick. Puis ça, c'est quand même assez... Ça verse quasiment vers la folie, c'est ça. Puis c'est ça qui est assez intriguant du film, là. C'est que tu vois à quel point c'était obsessif. Puis t'as ses enfants aussi, de Léon Vitali, qui sont là, puis sont comme, tu sais... Des fois, je trouve que c'est un peu triste de voir, tu sais, tout ce qu'il a laissé pour lui. Mais en même temps, tu sais, lui a l'air complètement heureux, donc c'est pas ça qui compte, au final, Rémi Fréchette, d'être heureux.
Waouh, ça a l'air magnifique, ouais.
Donc ça, c'était cool, très très cool. Et rapidement, le dernier documentaire que j'ai vu cette semaine, Ryuichi Sakamoto. Est-ce que c'est un nom qui te sonne des cloches?
Non, pas du tout. Tu m'apprends plein de choses aujourd'hui, Paul.
Ben, Ryuichi Sakamoto, c'est certainement un nom, c'est certainement un homme qui a sonné des cloches, littéralement, car c'est un compositeur légendaire, l'une des plus grandes... Ben non,
elle est bonne.
Non, mais c'est vrai, puis je vais te dire quelques titres, puis ça va, tu vois, c'est des titres que tu connais. C'est un compositeur japonais, donc, ainsi qu'un joueur de musique, un soloiste, etc., qui a composé certaines des plus belles trames sonores du cinéma. Sa trame sonore la plus connue, c'est certainement dans Merry Christmas, Mr. Lawrence. Et c'est lui également qui interprète l'officier japonais qui va avoir une relation conflictuelle, obsessionnelle avec David Bowie. David Bowie, d'ailleurs, avec lequel il partage de nombreuses affinités et sa carrière va un peu ressembler à ça. Il y a également une espèce de côté très excentrique, très raffiné par moments. Il va avoir comme plusieurs personnages au cours de sa carrière. Ryuichi Sakamoto, qui a également fait la musique pour The Last Emperor de Bertolucci, et plus proche de nous, The Revenant de Inarritu. Et en fait...
Ah ouais, ok.
Ouais.
Il continue encore, il est très très actif.
C'est ce qui est drôle, puisqu'on apprend en parlant le film, c'est que là, ce film-là, qui s'appelle... le sous-titre, c'est Coda. Et d'habitude, Coda, c'est un terme qui veut dire après. Donc là, on se dit, est-ce que c'est un film qui revient sur, je sais pas, sur l'ensemble de sa carrière? Oui et non. Parce qu'on est comme dans la pause qu'il a eue, parce qu'en 2014, il s'est fait diagnostiquer un cancer de la gorge. Et il a pris comme une pause professionnelle. Lui qui avait été toujours très prolifique, je pense qu'il est rendu à 19 albums studio de soloiste, en plus de tous ses nombreux bands auxquels il a gravité. C'est notamment un des membres fondateurs de Yellow Magic Orchestra, qui est comme une espèce de groupe japonais d'électro-pop qui était assez influent dans les années 70. Et donc, en 2014, il prend une pause professionnelle. Mais là, c'est ça, quand il s'est fait contacter par Inarritu, ce qu'il rencontre dans le film, ce qu'il ne pouvait pas dire non. Fait que là, c'est ça qui l'a un peu sorti de sa torpeur. Puis pas sa torpeur, mais tu sais, il y a eu beaucoup de doutes, en fait, après sa convalescence puis ses traitements contre le cancer.
Ouais.
Tu sais, il a réussi à combattre la maladie, mais ça a quand même un peu remis tout en question sa vie, tu sais, puis son rythme de vie. Mais il a fait quand même la trame sonore pour The Revenant, que... Honnêtement, je me rappelle plus beaucoup de la trame sonore, parce que c'est pas un film que j'avais full apprécié et j'ai pas revisité. Mais les extraits qu'on entend dans le film, dans le documentaire, ça marche tout à fait. Puis surtout, là, ce qui est le fun, c'est que c'est un artiste qui continue vraiment. C'est vraiment un pur compositeur de musique, tu sais. On le voit souvent comme se promener dans la forêt, puis tu sais, un peu, genre, il va donner des coups de pied à des roches, il va cogner sur des écorces, c'est toujours comme des micros autour de lui. Dans son studio, qui est maintenant à New York, parce qu'il se promène beaucoup entre le Japon puis New York au cours de sa carrière. Dans son studio, à un moment donné, il va se promener avec un archet, puis il voit juste comme un gros gong, il fait comme « Ah, je vais essayer de comme... » Tu sais, il glisse ça, tu sais, il fait vraiment des essais et des erreurs. Il prend une, il prend une tasse de café, il la renverse, vide, là. Il la renverse, puis là, il la glisse sur une cymbale, puis il essaie de comme trouver des sons comme ça. Puis ça, je trouve ça quand même toujours fascinant, ce genre de travail-là, vraiment de travail d'artisan, là. Tu sais, quelqu'un qui est jamais satisfait de ce qui se fait, mais qui embrasse en même temps les nouvelles technologies, parce que, comme je disais, tu sais, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence sur la musique électronique. Donc, puis d'ailleurs, ces compositions, parfois, vont un peu évoquer du Philip Glass ou des trucs comme ça. Il y a beaucoup de minimalisme. Et en 2017, il a sorti un album qui s'appelle Async, donc Async comme asynchrone, qui est vraiment un fabuleux album, là. Moi, c'est un de mes albums préférés l'année dernière, que je connaissais déjà beaucoup, en fait, avant de voir ce film-là. Et c'est un album qui a reçu beaucoup d'éloges, d'ailleurs, beaucoup de critiques, beaucoup de bonnes critiques. Donc, pendant le film, on est à la fois... Pendant qu'il compose la musique de Revenant, pendant qu'il fait des divers... parce que même quand il n'y a pas de projet concret, il est toujours un peu à la recherche de nouveaux sons, puis de nouvelles idées, puis de nouveaux trucs. C'est également un activiste assez radical, tu sais, puis il va souvent participer à des manifestations, notamment antinucléaires. On le voit notamment dans le film qui revient un peu sur les ruines de Fukushima à plusieurs reprises. Bon, évidemment, Fukushima qui est une catastrophe sans nom, là, tu sais. Puis c'est fascinant de le voir aller dans les ruines comme ça. Puis lui, il pense notamment en termes, bon, évidemment, en termes de social et en termes d'humain, puis de qu'est-ce que ça veut dire, mais également en termes de... Il est très philosophe, puis c'est vraiment fascinant comment il va expliquer un peu les... Comment un piano, dans le fond, c'est une construction humaine, mais fait à partir de matière naturelle. Puis lui, il explique, tu sais, Fukushima, dans le fond, tu sais, ça part d'un tsunami qui, dans le fond, qui est peut-être une espèce de... d'évocation de la nature pour reprendre le contrôle sur un pouvoir que l'homme n'est pas censé posséder.
Ouais.
Et il va observer un piano qui avait été un peu détruit, ben, semi-détruit par le tsunami puis par l'eau, parce que tu vois qu'il a flotté longtemps, il s'est déplacé, puis là il sonne tout croche. Mais lui, il va trouver ça fascinant parce qu'il est comme, tu sais, ça c'est un son inédit parce que on va jamais accorder un piano comme ça. Tu sais, là il y a eu la corrosion, il y a eu des radiations.
La nature influence la musique. Ouais, c'est je ça. Comprends.
Puis là, tu le vois travailler sur ces sons-là, puis comme capturer certaines notes de musique et qui vont se retrouver sur l'album que moi j'avais déjà entendu. Fait que là, c'était vraiment fascinant de le voir aller. Puis des fois, ça en devient quasiment ridicule de le voir aller parce qu'à un moment donné, il se met à pleuvoir dans son studio. Puis là, il sort, puis là, il est tout fasciné. Puis là, il est vraiment comme. Puis le documentaire vraiment prend le temps de le voir à l'œuvre, puis de le voir finalement à l'écoute. Puis à un moment donné, il va se prendre un seau, puis ça le met sur la tête, puis là, il se met à écouter la pluie qui tombe sur sa tête. Puis tu sais, c'est un peu, tu sais, c'est quasiment, dans le fond, ridicule, mais dans un sens, tu sais, c'est un génie, tu sais, puis il a fait certaines des trames sonores les plus incroyables, tu sais, de l'histoire, tu sais, puis il raconte certaines anecdotes qui sont savoureuses, tu sais, comme une fois, il travaillait sur un film que j'ai pas vu, en fait, de Bertolucci en 1990, The Sheltering Sky, avec John Malkovich, je sais pas si ça dit quelque chose.
Non.
Mais il était sur le point d'enregistrer donc la pièce d'ouverture du film, qui est quand même, tu sais, quelque chose de vraiment important, de crucial pour un film. Puis là, il était vraiment en séance d'enregistrement avec ses 40 musiciens devant lui. Il se fait donner un coup de fil de Bertolucci qui lui dit « Je viens d'écouter, qu'est-ce que tu m'as écrit pour l'ouverture, j'aime vraiment pas ça, faut changer. » Puis là, l'autre, il est vraiment, tu sais, mal à l'aise. Puis là, il est comme « Écoute, je peux pas, là, je suis en enregistrement, j'ai 40 musiciens devant moi. » J'ai vraiment pas le temps, tu sais, puis c'est des délais serrés. Puis là, Bertolucci de lui répondre, ben, Ennio Morricone, il l'aurait changé, lui. Fait que là, il est comme, qu'est-ce que j'ai fait?
Oh, shit.
Il est comme, j'avais pas le choix, je dis, ok, c'est beau. J'ai dit à mes musiciens, ben, donnez-moi 30 minutes, je reviens. Puis là, il est allé, comme, écrire frénétiquement ce qui est devenu l'ouverture du film et qui est devenu, bon, j'ai pas vu le film, mais, tu sais, on voit un extrait, puis... Il dit « Je suis content, ça a super bien marché. » Il était très content, puis je pense que c'est ce que ça prenait pour que l'ouverture marche. Donc, c'est des anecdotes comme ça qui sont assez fascinantes. Puis c'est toujours fascinant de voir des gens comme ça qui sont conscients un peu de leur place dans l'histoire, mais qui s'en satisfassent pas, puis qui continuent vraiment à essayer de chercher des nouvelles façons, puis de pas s'asseoir sur ses lauriers, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est fascinant ce genre de documentaire-là. Ça me rappelle un petit peu le documentaire que j'avais déjà parlé il y a quelques mois, ou même l'année dernière, Film Score, qui était lui sur plusieurs compositeurs. Je pense pas que ce film-là il est aussi divertissant puis qu'il est aussi réussi. Ne serait-ce aussi parce que sur un seul point de vue, des fois, ça devient un peu limité. Tu sais, Sakamoto, c'est un compositeur et non un écrivain ou un poète ou quelque chose comme ça. Donc, parfois, ce qu'il va dire, c'est avec un petit peu limité. Tu sais, peut-être que justement, il laisse peut-être le piano parler mieux que lui. Mais reste que si vous êtes fan ou si vous êtes simplement cinéphile, je pense que c'est un documentaire à voir, qui réinvente pas la roue, mais qui est très bien fait. Puis entre ça puis Film Worker, tu sais, vous avez vraiment comme deux bonbons en fait pour les cinéphiles, tout simplement. Les deux films sont disponibles. Ryuichi Sakamoto, c'est Coda. C'est produit par Mubi, donc il est présentement disponible sur la plateforme de Mubi pour 30 jours. Et Film Worker, bon, ça c'est disponible en location entre autres sur iTunes. Alors voilà, et soyez pas surpris si un ou ces trois films se retrouvent dans la course pour le meilleur documentaire à l'année prochaine. Won't You Be My Neighbor, je pense, rendu là, c'est comme assuré, là.
Vous l'aurez entendu à point de vue, Paul l'a dit.
Ouais, ben.
Donc Paul fait déjà ses prédictions.
Ben, on dirait que les documentaires, c'est assez prévisible d'une année à l'autre, j'ai l'impression. Ceux qui se retrouvent là, même s'il y a toujours des espèces de surprises, puis des snubs, puis des trucs comme ça. Mais tu sais, on s'entend que cette année-là, si on avait à faire les cinq, là, il va y avoir Won't You Be My Neighbor, il va sûrement y avoir Three Identical Strangers, il va sûrement y avoir le film de Michael Moore, puis là, il en manque deux, tu sais. Mais je suis pas mal sûr que ces trois-là vont se retrouver là. Film Worker, je serais pas surpris, mais c'est un petit film, fait que j'ai pas l'impression qu'il va avoir l'argent pour faire une grosse campagne marketing. Mais j'ai l'impression qu'on est déjà 3 des 5, puis ça me surprendrait pas que j'aie raison, tu sais. Ou peut-être le documentaire sur Orson Welles, comme je disais, tu sais, parce que là, il va y avoir comme tout un revival d'Orson Welles en ce moment. On va voir ce qu'il en est, mais je serais prêt, peut-être pas à mettre de l'argent, mais je suis assez confiant qu'on va retrouver certains de ces films-là parmi les finalistes. Donc,
Hell yeah!
Rémi, on va se quitter, nous, sur la bande-annonce de l'inimitable Laissez bronzer les cadavres
Wouh!
d'Hélène Katté et Bruno Forzani. C'était
Très bon call.
notre point de vue et on invite tous les spectateurs, tous nos auditeurs à venir te jaser au FCBQ s'ils te croisent lors de ta projection ou d'une autre.
Gênez-vous pas, je suis super gentil, des fois.
Et nous, on va se retrouver.
Si la projection va bien, si la projection va bien.
Et pour le prochain podcast, on va peut-être espérer retrouver Pascal et le trio original. Et on va avoir également une annonce à faire pour le FNC très bientôt. Alors, suivez notre page.
Ouh!
C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andreau et j'étais avec mon collègue
Rémi Fréchette. Peace out.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Ils ont braqué un fourgon blindé. Je leur ai arrangé leur planque ici.
Faut dégager. Elles vont attirer les flics ici.
Je vous donne une chance d'ouvrir. Sortez les bras en l'air. Et mettez-vous au milieu de la cour!
Je n'aime pas les flics. Je n'aime pas la société. Est-ce que vous comprenez?
C'est une ambiance agréable en moi.
Oui.
Passer tout ça pendant qu'on dormait.